Peut-être avez-vous une idée de quoi nous allons vous parler aujourd'hui avec l'introduction de Marie-Noël. Aujourd'hui, en 2020, vous arrive-t-il parfois de trouver ou penser que tout va trop vite et que nous n'arrivons plus à suivre? Nous avons tendance à vouloir freiner, nous poser, et il arrive que nous en venions à regretter le bon vieux temps où nous prenions le temps. Nous voudrions pouvoir ralentir, nous poser et regarder en arrière avec nostalgie parfois. Tout comme moi, vous avez dû entendre des anciens, vos parents ou grands-parents. Quand même, qu'est-ce que c'était mieux avant ? Ces remarques nous ont sûrement exaspérés, agacés ou fait sourire. Et peut-être avons-nous répondu « Mais papa, maman, il faut vivre avec son temps, il faut avancer, c'est normal. » Aujourd'hui, ce sont peut-être nos enfants qui trouvent que nous vivons au ralenti et que nous leur mettons des bâtons dans les roues pour les empêcher d'avancer. Ainsi va le monde. Et que pouvons-nous y faire? Que nous dit la Bible en ce qui concerne la nostalgie du passé? Prenons quelques versets qui nous parlent du regard en arrière. D'abord, nous disons en Genèse 19 les versets 16 à 18 qui concernent la famille de Lot et sa famille.
Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses deux filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'emmenèrent et le laissèrent hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit « Sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. » L'autre leur dit « Oh non, Seigneur !»
Dieu nous connaît. Il sait combien nous sommes attachés à notre confort, combien la crainte de l'inconnu, la peur du lendemain que nous ne maîtrisons pas nous paralyse. Il sait tout de nous. Et c'est pourquoi l'ange dit à Lot, « Ne regarde pas en arrière. » Plus loin, nous lisons au verset 26.
La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel.
Quel malheur pour elle! Non seulement la peur de s'être plongée dans l'inconnu, l'attachement au monde qu'elle abandonnait sur l'ordre de l'Éternel allait conduire à cette catastrophe aux conséquences dramatiques. La première est sa mort immédiate. La deuxième et l'acte d'inceste qu'allaient commettre ses deux filles. Nous lisons plus loin au verset 30 à 36.
Lot quitta Tsoar pour la hauteur et se fixa sur la montagne avec ses deux filles, car il craignait de rester à Tsoar. Il habita dans une caverne, lui et ses deux filles. L'aîné dit à la plus jeune, « Notre père est vieux et il n'y a point d'homme dans la contrée pour venir vers nous, selon l'usage de tous les pays. Viens, faisons boire du vin à notre père, et couchons avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. » Elles firent donc boire du vin à leur père cette nuit-là. Elle est née à la coucher avec son père. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Le lendemain, l'aîné dit à la plus jeune, « Voici, j'ai couché la nuit dernière avec mon père. Faisons-lui boire du vin encore cette nuit et va coucher avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. » Elles firent boire du vin à leur père encore cette nuit-là, et la cadette alla coucher avec lui. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Les deux filles de Lot devinrent enceintes de leur père.
Un regard en arrière aux conséquences terribles, puisque les deux peuples issus de ces incestes ne connaîtront pas Dieu. Les Moabites voulurent combattre les Hébreux, firent appel au prophète Balaam. Et tout au long de l'Ancien Testament, nous le retrouvons la plupart du temps ennemi d'Israël. Seule Ruth est un exemple de vie transformée par Dieu, qui prend une direction ordonnée par lui. Quant aux Ammonites, issus du deuxième fils de Lot, eux aussi ont été des ennemis d'Israël. Et lorsque la paix semblait régner entre eux, entre les deux peuples, les Ammonites, peuple païen, ont été un piège pour Israël. Ils adoraient les dieux Milcom et Moloch. Dieu a interdit aux Israélites d'épouser les filles ammonites, car de telles unions les auraient menées à adorer de faux dieux. Salomon a désobéi en épousant Naama, l'ammonite. On peut lire cela en 1 Roi 14-21. Aujourd'hui, ces deux peuples n'existent plus. Ils ont été absorbés par les Arabes, qui, comme chacun le sait, sont les ennemis d'Israël. Autre piège du regard en arrière, où la nostalgie du passé était illustrée cette fois par le peuple d'Israël. Lisons Nombre 11, versets 1 à 6.
Le peuple murmura, et cela déplut aux oreilles de l'Éternel. Lorsque l'Éternel l'entendit, sa colère s'enflamma. Le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du camp. Le peuple cria à Moïse. Moïse pria l'Éternel et le feu s'arrêta. On donna à ce lieu le nom de Tabéra parce que le feu de l'Éternel s'était allumé parmi eux. Le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise. Et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire « Qui nous donnera de la viande à manger ?» Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et qui ne nous coûtaient rien, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des os. Maintenant, notre âme est desséchée, plus rien. Nos yeux ne voient que de la manne.
Nous nous souvenons des poissons que nous mangeons en Égypte et qui ne nous coûtaient rien. Des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des os. Maintenant, notre âme est desséchée, plus rien. Nos yeux ne voient que de la manne. Quelle monstrueuse ingratitude! Ils étaient esclaves, avaient des travaux à faire qui les conduisaient au bout de leurs forces. Les Égyptiens tuaient leurs nouveau-nés garçons. Lisons Exode 1, verset 22.
Alors Pharaon donna cet ordre à tout le peuple. Vous, tout son peuple, vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra et vous laisserez vivre toutes les filles. Ils vivaient certainement dans ce que nous appelons aujourd'hui des bidonvilles ou des jungles, là où sont les réfugiés et demandeurs d'asile dans nos pays en ce moment.
Dieu les a libérés de l'esclavage, leur a promis de les conduire vers une terre où coule le miel. Et pourtant, ils regrettent. Exode 3, versets 7 à 9.
L'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Éthiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébuséens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. »
Quelle tristesse! Ne sommes-nous pas parfois comme le peuple d'Israël à regretter ce que nous avions? Regretter le bon vieux temps? Regretter encore et encore? Oubliant que Dieu est le maître de toutes choses et qu'il nous a promis une vie éternelle où ne le connaîtront plus la faim, la soif, la maladie. Un autre passage bien connu est ce que dit Jésus dans Luc 9 au verset 59 à 62.
Suis-moi. Et il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. Mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Un autre dit, je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison.
Et enfin, au verset 62, nous entendons Jésus dire,
quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu.
Que dire de ces deux hommes? N'étaient-ils pas attachés au passé? Ils rencontrent Jésus, Dieu fait homme venu nous sauver, et ils invoquent le besoin d'aller d'abord faire quelque chose d'autre. Pour le premier, enterrer un père, n'est-ce pas un devoir sacré? Cela est vrai, si un devoir supérieur ne s'y oppose pas. Dans le contexte de l'époque, les cérémonies funèbres, en raison de la souillure contractée par le contact d'un mort, duraient 7 jours. Mais là, il y a urgence. Dans 7 jours, Jésus serait déjà bien éloigné, éloigné quand les funérailles seraient terminées. La décision prompte de suivre Jésus était une condition de salut et de vie. Pour le deuxième, il temporise comme le précédent. Jésus ne l'arrête ni ne le pousse. Il l'invite à se décider réellement et en finir avec le partage intérieur entre le monde et Dieu. Partage intérieur que Jésus discerne chez lui. Que fait alors Jésus? Il a recours pour cela à une de ces images qui saisissent l'esprit comme un éclair de vérité et qui abonde dans ses discours. Si celui qui conduit une charrue pour tracer un sillon détourne la vue du travail qui est devant lui et regarde en arrière, la charrue dévira infailliblement et il ne fera rien de bon. Tel est celui qui, voulant travailler dans le règne de Dieu, reporte ses regards, ses désirs, ses regrets vers ses relations premières ou vers le monde, au lieu de se consacrer tout entier et sans délai à l'accomplissement de sa vocation. La demande que fait ce disciple de prendre d'abord congé des siens était très naturelle en des circonstances ordinaires. Jésus ne lui aurait certainement pas refusé. Mais Jésus, qui le connaissait, pouvait prévoir qu'il serait détourné de son dessein par sa famille, encore étrangère à la foi. C'est pourquoi il ne devait pas regarder en arrière, mais s'élancer en avant à la suite de Jésus. Un des mots de notre époque est notre agenda. Que nous soyons chrétiens ou non, il nous domine. Et nous, témoins de Christ, ne nous arrive-t-il pas de passer à côté de l'essentiel? En ce qui me concerne, oui, ça m'arrive bien souvent. Et que penser de nos contemporains ne connaissant pas réellement Dieu, mais ne repoussant pas l'idée qu'il y a peut-être un être suprême, qu'ils nous disent lorsque nous voudrions parler de notre foi, nous n'avons pas le temps, il y a le travail, les enfants, amenés aux activités du week-end. J'ai tant de choses à faire que je n'ai pas assez de temps pour moi-même. Et parfois nous entendons, on verra plus tard lorsque nous serons à la retraite. Il y a dans la vie de tout homme en présence de l'Évangile de ces moments décisifs qui ne reviennent pas et qu'il faut saisir, sous peine de tout perdre. Paul Calzada a écrit une méditation sur ce sujet.
Il est des situations douloureuses desquelles on ne peut sortir qu'en décidant de ne pas continuer à regarder en arrière. Vous avez connu un échec sentimental, financier ou de tout autre ordre, le moment est venu de ne pas continuer à regarder dans le rétroviseur, à vous morfondre sur cet échec. Voici le témoignage de quelqu'un qui est passé par ce genre de situation douloureuse. Il est des choses que j'ai faites, des paroles que j'ai prononcées, des lieux que j'ai fréquentés ou des attitudes que j'ai eues et que je regrette amèrement. À bien y réfléchir, je ne suis certainement pas un cas unique. Nous sommes tous des pécheurs et sans aucun jugement de ma part porté sur votre vie, que je ne connais d'ailleurs pas, vous avez peut-être aussi des expériences passées qui vous sont propres, auxquelles vous pensez, alors que vous les aviez déjà archivées et classées dans les dossiers erreurs, faux pas ou échecs cuisants dont vous êtes peu fiers. Vous dévoiler mes échecs ne serait utile en rien. Cependant, sans vous faire part de confidence, je peux vous déclarer que je n'ai plus à rougir de ces choses. Dieu m'a pardonné et il m'a appris à me pardonner moi-même. Cela a pris du temps. J'ai perdu de précieuses semaines à regarder plus qu'il ne fallait dans le rétroviseur. Ce miroir reste utile pour être consulté de temps à autre seulement. Sans quoi, si nous fixons nos regards uniquement sur lui, nous risquons très rapidement la collision. Nous savons ce qui est arrivé à la femme de Lot. En regardant derrière, elle fut littéralement pétrifiée. L'apôtre Paul, au passé chargé en tant que persécuteur de l'Église, a compris que ses regards portés sur ce passé ne pouvaient que le paralyser. Aussi, il a décidé de regarder en avant. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but. Philippiens 3:13. La vie est faite de réussites et d'échecs, de victoires et de défaites. Parfois nous sommes à terre et c'est à ce moment-là que nous devons entendre la voix de Dieu. Ne regarde pas en arrière, regarde au but. Un conseil pour ce jour, tu viens d'être abandonné, tu viens de recevoir une triste nouvelle. Quelqu'un t'a jeté ton passé à la figure. Ne regarde pas en arrière et cours vers le but. Ne laisse pas ton passé te voler ton avenir. Dieu est à tes côtés.
Lorsque nous regrettons le passé, ne manquons-nous pas de confiance en Dieu qui nous a promis d'être avec nous, quelles que soient les circonstances, comme le dit David au psaume 23.
L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours.
Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Que nous dit Paul au sujet du regard en arrière? Lisons Philippiens 3, les versets 12 à 14.
Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ.
Sœurs et frères, ne regardons pas le progrès comme un piège. Je suis persuadé que tout n'est pas mauvais dans le progrès. Il y a le progrès voulu par Dieu, bon pour nous, ne le refusons pas. Il y a aussi le progrès, toujours voulu par Dieu, mais détourné par les hommes. Les hommes sont le maître du monde pour que nous tombions. L'invention de l'imprimerie, qui dirait aujourd'hui que c'est inutile? Sans elle, nous n'aurions jamais pu découvrir la Bible et tous ses trésors. Et pourtant, il y a les côtés néfastes avec les écrits qui n'auraient jamais dû voir le jour. Les livres pornographiques, les livres tels que le Petit Livre Rouge ou Karl Marx, qui prônent le salut des hommes. Que dire du progrès de la science et de la médecine? Qui dirait encore aujourd'hui que ça ne sert à rien? Pas moi en tout cas. S'il n'y avait pas eu tous ces progrès ces 50 dernières années, eh bien, je serais mort à 33 ans. C'est à cet âge-là que j'ai eu un accident de la route et que j'ai été fracassé. Puis de nouveau à 55 ans, puisque c'est là que j'ai eu un double pontage en urgence. Sans parler du cancer de l'année dernière, où grâce à ces progrès, une détection très rapide, bien qu'étant agressive, j'ai pu échapper à la chimiothérapie et à la radiothérapie. Et pourtant, que de choses néfastes aussi dans les progrès de la science et de la médecine, où les hommes, dans le but de s'affranchir de Dieu, se servent des avancées de la recherche en arrière et en arrivent à maîtriser le clonage. Certes, au début, c'était pour cloner des cellules, pour venir en aide aux grands mulets, aux victimes d'accidents graves. Mais maintenant, certaines équipes, après avoir travaillé sur ce clonage animal, travaillent sur le clonage humain. Avant de conclure, Annie va nous lire un poème écrit par une sœur de l'église de Bordeaux où Patrice Martorano est pasteur.
Le meilleur est devant toi. Oubliant ce qui est en arrière, je me porte vers ce qui est en avant. Assis, totalement arrêté et submergé par tes réflexions qui t'oppressent, tu regardes en arrière. Tu regardes par terre et tu vois tes faiblesses. Tu rêvasses et tu ressasses ton passé qui sans cesse te bouleverse. Laisse là ce passé cassé qui t'a brisé et qui t'empêche d'avancer. Range tous tes souvenirs qui s'en vont et reviennent sans arrêt et qui arrangent, améliorent ton passé pour masquer la réalité. Derrière toi, tes échecs, tes erreurs, ta détresse. Devant toi, ton rêve, ta vie, ta promesse. Derrière toi, l'esclavage, le désert, la fuite. Devant toi, la liberté, l'abondance, la réussite. Derrière toi, toute une vie de souvenirs. Devant toi, toute une vie à conquérir. Existe-t-il seulement un choix à faire entre ce qui est révolu et ce qui reste à bâtir? Veux-tu vraiment rester dans tes chimères ou veux-tu décider de te lever pour agir? Le meilleur est devant toi, mais l'inconnu engendre la frayeur. La promesse est pour toi, mais sa grandeur te fait peur. Alors que si Dieu est avec toi, tu seras toujours vainqueur. Ni les géants, ni leurs ruses n'auront raison de toi. Ni les obstacles, ni les blessures n'arrêteront tes pas. Dieu a promis, c'est irrévocable. Qui sera contre toi? Lève-toi maintenant, empare-toi de ta vie et prépare-toi au combat. Oublie le passé, lève les yeux vers ton avenir. Tout est possible par la foi. Aujourd'hui, tu t'éveilles. Un nouveau jour se lève et tu t'émerveilles. car devant toi, l'Éternel, ton soleil, t'éclaire une destinée nouvelle. L'excellence est là. Le meilleur est à ta porte. Fais simplement le premier pas. Dieu t'entraînera dans ce pays qu'il t'a promis, cette vie conçue rien que pour toi. Une prière pour aujourd'hui. Seigneur, oubliant ce qui est en arrière, je me porte vers ce qui est en avant. Amen.
Notre nature humaine nous conduit bien souvent à regarder en arrière. Mais il faut que ce soit dans un esprit de louange si nous le faisons. Au psaume 103, verset 2, nous pouvons lire « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Compter les bienfaits de Dieu ne nous aide pas à occulter nos erreurs passées, mais nous permet de voir comment Dieu a su en tirer profit pour nous faire avancer. Arrêtons de voir nos échecs comme des catastrophes et laissons Dieu seul nous conduire vers l'avant. C'est ma prière pour nous aujourd'hui, que notre Dieu nous conduise par son esprit à regarder vers l'avant, vers le but suprême, en suivant Christ qui est le chemin, la vérité et la vie, pour demeurer avec lui auprès du Père. Amen.